Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grand Ciel, au micro Yves Bastide pour l'émission « Si ma mémoire est bonne ». Je voudrais vous parler aujourd'hui du procès le plus extraordinaire que la France ait connu. Celui en 1945, du 23 juillet au 15 août 1947, celui du maréchal Pétain. C'est quand même exceptionnel qu'un chef d'État, le chef de l'État français, soit mis en jugement alors que tout le monde sait qu'un seul verdict est possible dans la situation de la France, c'est la peine de mort. Alors, rappelons quand même que le maréchal Pétain avait été emmené à Sigmaringen, et puis il avait quitté Sigmaringen pour aller en Suisse. Et puis un beau jour, il a décidé de revenir en France. Il a été immédiatement arrêté et sa mise en jugement n'a pas tardé. Sans doute, parmi les responsables politiques de l'époque, ce retour de Pétain en France n'était pas du goût de tout le monde. D'ailleurs, de Gaulle le reconnaîtra un peu plus tard dans ses mémoires. Il aurait préféré que le maréchal se réfugie dans un pays quelconque, mais surtout pas qu'il revienne en France. Alors, voyons maintenant le tribunal qui a été mis en place pour juger celui qui était le chef de l'État français. Le président, c'est Louis Mongibaud. Alors, comme tous les hommes de l'appareil judiciaire, il a prêté serment d'allégeance au maréchal quelques années plus tôt. Quelque part, cela m'interpelle, comme on dit maintenant peut-être, comment quelqu'un a pu, après avoir prêté allégeance à une personne, présider le tribunal qui allait juger cette même personne. Cela demande sans doute des aménagements avec sa propre conscience, mais la démarche me reste incompréhensible. Le procureur, par contre, lui, André Mornay, n'a pas prêté serment d'allégeance au maréchal, ou pas par patriotisme, ou par conviction politique ou religieuse ou autre, tout simplement parce que, au moment où on a demandé aux juges et procureurs de prêter serment d'allégeance au maréchal, André Mornay était déjà à la retraite. Donc lui n'a pas eu besoin de prêter ce serment. Alors André Mornay, signalons pour la petite histoire, qu'il avait à son actif un succès dont la presse s'est fait largement l'écho, celui de la condamnation de Matahari en 1917. Soi-disant espionne, ça a été fortement remis en cause, et fusillé. Le maréchal, lui, a trois avocats, Fernand Payen, Jean Lemaire et un avocat qui laissera une trace dans l'histoire de la justice française, Jacques Isorni. Il a 34 ans à l'époque. Il s'est fait connaître pendant l'occupation pour avoir pris la défense de communistes à Vichy. Et là, il va plaider pour le maréchal Pétain. Plus tard, il plaidera pour Brasillac. Dans le public, il y a des personnalités remarquables. Madeleine Jacob, qui est chroniqueuse judiciaire pour le journal Franc-Tireur, qui plus tard assurera une chronique dans l'Humanité Dimanche. Il y a Joseph Kessel, romancier et auteur, avec son neveu Maurice Druand, des paroles du chant des partisans. Il y a aussi François Mauriac. Et il y a, mais de façon plus irrégulière, il y a Albert Camus. Albert Camus, à ce moment-là, est surtout préoccupé par la création d'une de ses pièces qui allait révéler un comédien extraordinaire, la mise en scène de Caligula, où Gérard Philippe allait gagner brusquement ses galons de grande vedette populaire. Alors, il a aussi les jurés. Ils sont 24. 12 parlementaires choisis parmi ceux qui ont refusé de reconnaître le régime de Maréchal Pétain, et 12 personnalités issues de la résistance. Déjà, la neutralité proclamée haut et fort des jurés a de quoi être remise en doute. Et alors, le procès va commencer. Un procès où chacun, pour l'accusation ou pour la défense d'ailleurs, va essayer d'expliquer pourquoi lui avait raison contre tous les autres. Un des premiers à témoigner a été Paul Reynaud. Paul Reynaud, ancien Premier ministre, qui va expliquer, enfin, qui va donner une version bizarre sur le fameux système de défense de la France en 1939 entre la ligne Maginot et la ligne Siegfried. Et Paul Reynaud est là, c'est quand même lui qui a fait appel à Pétain. Une occasion aussi de rappeler les fameux 3D qui ont précédé l'arrivée du maréchal au pouvoir. Les 5D, pardon, excusez-moi, 5, défaite, débandade, déroute, débâcle, désastre. Alors, le président Lebrun, en 1940, fait appel à Pétain. Et Paul Reynaud, qui va parler pendant 6 heures, imaginez 6 heures en train d'écouter un homme politique vous expliquer comment et pourquoi il ne s'est pas trompé. Il va même jusqu'à affirmer que le peuple s'est trompé sur Pétain. Et plus grave, pour l'étude des mentalités de l'époque, il balait la légende à Pétain, homme de guerre triomphant, en rappelant que Joffre, le maréchal, traitait Pétain de défaitiste. Alors il va faire allusion au traité de Munich. C'est cette fameux traité qui a abandonné la Tchécoslovaquie.
Radio Grand Ciel.
Vont aussi témoigner du fameux procès de Guillaume, qui en 1942 avait condamné Daladier, Reynaud et Blum. Et finalement, Daladier va témoigner à charge contre Pétain. Alors, les membres du jury vont écouter ça. Daladier va notamment déclarer « Pétain a trahi son devoir de Français. » Albert Lebrun sera entendu. C'est aussi extraordinaire, un ancien président de la République entendu comme témoin dans un procès. Mais Albert Lebrun, que certains n'ont pas hésité à qualifier de le plus terne, le plus docile, le plus nul. Alors, que fait Pétain pendant ce temps-là? Rien. Il a fait une déclaration tout à fait au début, disant qu'il n'ouvrirait pas la bouche. Et dans sa déclaration, voici ce qui, entre autres, ce qu'il déclare. C'est le peuple français qui, par ses représentants réunis en Assemblée nationale le 10 juillet 1940, m'a confié le pouvoir. C'est à lui que je suis venu rendre des comptes. La haute cour telle qu'elle est constituée ne représente pas le peuple français et c'est à lui seul que je m'adresse. J'ai passé ma vie au service de la France. Aujourd'hui, âgé de près de 90 ans, jeté en prison, je veux continuer à la servir. Pendant que le général de Gaulle, hors de nos frontières, poursuivait la lutte, j'ai préparé les voies à la libération en conservant une France douloureuse mais vivante. À quoi eût-il servi de libérer des ruines et des cimetières? Je sais qu'en ce moment, si certains ont oublié, depuis que je n'ai plus le pouvoir, ce qu'ils ont dit, écrit ou fait. Ma vie importe peu. J'ai fait à la France le don de ma personne. C'est à cette minute suprême que mon sacrifice ne doit plus être mis en doute. Si vous devez me condamner, que ma condamnation soit la dernière, et qu'aucun Français ne soit plus tard condamné ni détenu pour avoir obéi aux ordres de son chef légitime. Mais je vous le dis à la fin du monde, vous condamnerez un innocent en croyant parler au nom de la justice. Je m'en remets à la France. Et désormais, le maréchal Pétain n'interviendra pratiquement plus. De temps en temps, il agitera son gant, celui qu'il a toujours à la main. Et on dit qu'il a des problèmes de surdité, donc que probablement il n'entend pas la totalité de ce que se dit à son sujet. On dit aussi, mais personne n'ose aborder le problème, qu'il est de plus en plus sénile et n'a que quelques minutes. Certains prétendent même qu'il n'a que quelques minutes de lucidité par jour. Je vous propose une interruption musicale.